Chapitre suivant. Voyage à Rome. Ambassade auprès du roi de France. Aumônier de la reine Margot et fausse accusation de vol. Tu devines combien grande était la joie de Vincent. Visiblement, la Sainte Vierge l'exauçait. Toutefois, il fallait être prudent et sa patience devait être mise à l'épreuve. Il fallut en effet attendre encore une dizaine de mois pour que vînt l'occasion rêvée. Une nuit de juin, Vincent et son converti s'embarquèrent clandestinement et quittèrent la côte tunisienne sans donner l'éveil. Après une traversée sans histoire, ils arrivèrent à Aiguemorte. D'Aiguemorte, Vincent et son compagnon arrivèrent en Avignon. Dans cette ville célèbre habitait le vice-légat du pape qui s'appelait Monseigneur de Montorio. Ce fut là, dans l'église Saint-Pierre, qu'en présence du vice-légat, l'apostat tout en larmes fit son abjuration et fut réintégré dans l'église catholique. C'était un fait tellement extraordinaire que tout le monde en parlait. Comme il l'avait promis à Vincent, le nouveau converti demanda à faire pénitence de sa faute dans un couvent. Monseigneur de Montorio, ému de cette conversion si sincère, résolut de l'emmener à Rome avec celui qui avait été l'instrument de la miséricorde divine. Le converti entra au monastère des Frères de la Charité, où il devait se consacrer jusqu'à sa mort aux soins des malades. Vincent, qui avait gagné l'amitié et la confiance du vice-légat, séjourna quelque temps à Rome. Ne restant jamais inactif, il en profita pour suivre des cours de théologie qui se donnaient dans l'université romaine. Les expériences de chimie que Vincent avait retenues de son maître arabe avaient contribué à son succès auprès des prélats romains, mais surtout son intelligence, son bon sens, sa piété et l'histoire de la conversion de son maître tunisien avaient attiré sur lui l'attention du pape Paul V et de l'ambassadeur de France Savary de Brève. En 1608, ils lui confièrent une mission confidentielle pour le roi Henri IV. Vincent partit donc pour Paris. Le roi le reçut d'autant mieux qu'ils étaient tous les deux de la même région de France. Il n'y a pas loin, en effet, du Béarn aux Landes. Comme Vincent n'avait pas d'emploi, le roi, pour le récompenser de son ambassade, le fit nommer aumônier de la reine Margot. Cette reine, très intelligente et très cultivée, habitait sur la rive gauche de la Seine, un somptueux palais tout proche du pont Neuf, sur l'emplacement actuel de l'Institut. Décidée à réparer une vie désordonnée, elle était devenue très dévote et très charitable. Elle accepta volontiers l'offre que lui fit le roi de prendre Vincent comme aumônier. À ce titre, elle le chargea de distribuer d'importantes sommes d'argent aux pauvres qui venaient assiéger son palais et d'aller visiter en son nom les malades de l'hôpital de la Charité. Vincent préférait s'occuper des pauvres que de fréquenter les riches seigneurs. Cependant, il eut plusieurs fois l'occasion de rencontrer le dauphin, c'est-à-dire le futur Louis XIII, fils de Henri IV et de Marie de Médicis, dont la reine Margot avait fait son héritier. Comme la charge d'aumônier lui laissait des loisirs, Vincent les utilisait en suivant les leçons données par les illustres professeurs qui enseignaient à la Sorbonne. Il préparait le diplôme de licence en droit canonique. Vincent, tu le vois, continuait à étudier. Il ne perdait jamais son temps. Il faut, disait-il, profiter de toutes les occasions pour se cultiver et pour se rendre ainsi plus capable de servir Dieu et les hommes. S'il distribuait de riches aumônes, lui-même restait pauvre. Il avait refusé d'habiter au palais. Il ne se sentait pas à l'aise dans le luxe et dans la frivolité de la cour. Par économie et par humilité, il avait accepté de partager à l'hôtel la chambre d'un de ses compatriotes, juge au tribunal, M. de Sors. Il lui arriva un jour une pénible histoire. Son compagnon possédait un sac plein d'écus qu'il avait l'habitude de ranger dans le placard. Mais comme il était très distrait, il oubliait souvent la clé sur la serrure. Or, un jour, Vincent s'était couché avec de la fièvre. Depuis son séjour dans le climat malsain de l'Afrique, il avait en effet, de temps en temps, des crises de paludisme. Des remèdes avaient été commandés chez l'apothicaire, c'est ainsi qu'on appelait à cette époque un pharmacien. Le garçon de course apporta les remèdes, tandis que Vincent dormait profondément. Ayant remarqué la clé sur le placard, il l'ouvrit, s'empara de l'argent et s'enfuit en le cachant sous son manteau. À son retour, le juge, voyant le placard ouvert, vidé de son précieux contenu, demanda des explications à Vincent. Celui-ci, pendant son sommeil, n'avait rien vu ni entendu. Monsieur de Sort, en colère, accusa Vincent d'être le voleur et ameuta tout le quartier contre lui. Vincent affirma calmement son innocence, mais ne pouvant arriver à la démontrer, supporta en silence l'injuste accusation. Or, quelques années plus tard, le véritable voleur, qui, pour un autre larcin, avait été mis en prison à Bordeaux, fit appeler Monsieur de Sort, qui habitait cette ville, et lui avoua sa faute. Le juge écrivit immédiatement au saint pour lui demander pardon. Il y avait longtemps que Vincent avait pardonné.